moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celles qui filent rapidement vers un but.
L'homme qui aimait les femmes de Truffaut.
Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement. Puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes.
Ça peut pas faire de mal.
Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'avait jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en trafiquait par tout le monde. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise. Il la regardait avec admiration. Et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien par son air et par tout ce qui était à sa suite qu'elle devait être d'une grande qualité. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient, contre l'ordinaire des jeunes personnes qui voient toujours avec plaisir l'effet de leur beauté. Il lui parut même qu'il était cause qu'elle avait de l'impatience à s'en aller, et en effet, elle sortit promptement. Monsieur de Clèves se consola de la perdre de vue dans l'espérance de savoir qui elle était. Mais il fut bien surpris quand il sut qu'on ne la connaissait point. Il demeura si touché de sa beauté et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaire. C'était un extrait de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Ce magnifique portrait de femme par une femme. Pour introduire ce cycle de deux émissions consacrées aux femmes. En compagnie d'une femme, d'une beauté, une grande star de cinéma, une grande tragédienne, la sublime Françoise Fabian. Merci Françoise d'être avec nous ce
Guillaume,
soir.
Guillaume, c'est un plaisir.
Quelle voix. Ce soir, nous évoquerons donc les grands personnages féminins du répertoire classique, d'Euripide à Proust, en passant par Shakespeare, Racine, Laclos, Hugo et Flaubert. Écoutons ces hommes de théâtre et ces grands romanciers nous parler de l'autre sexe. Commençons par Euripide. D'Euripide à Heiner Müller, de Corneille à Pasolini, Médée l'infanticide traverse les siècles et continue de hanter notre inconscient collectif. Au début de la tragédie d'Euripide, Médée, l'étrangère, s'adresse au coryphée pour lui demander le soutien des femmes de Corinthe, où elle s'est réfugiée avec Jason après la conquête de la Toison d'Or. Mais Jason lui est infidèle et épouse Créuse, la fille de Créon. Médée fomente sa terrible vengeance. Pour gagner la complicité des femmes, elle évoque leur sort commun, celui de la condition féminine.
Femme de Corinthe, un malheur s'est abattu sur moi à l'improviste et m'a brisé l'âme. C'en est fait de moi. J'ai perdu la joie de vivre et je désire mourir, mes amis. Celui en qui j'avais mis tout mon bonheur, je ne le sais que trop, mon époux est devenu le pire des hommes. De tout ce qui, à la vie et la pensée, nous sommes, nous autres femmes, la créature la plus misérable. D'abord, il nous faut, en jetant plus d'argent qu'il n'en mérite, acheter un mari et donner un maître à notre corps. Ce dernier mal pire encore que l'autre. Puis se pose la grande question. Le choix a-t-il été bon ou mauvais? Car il y a toujours scandale à divorcer pour les femmes. Elles ne peuvent répudier leur mari. Quand on entre dans des habitudes et des lois nouvelles, il faut être un devin pour tirer, sans l'avoir appris dans sa famille, le meilleur parti possible de l'homme dont on partagera le lit. Si après de longues épreuves nous y arrivons et que Marie vive avec nous sans porter le joug à contre-cœur, notre sort est digne d'envie. Sinon, il faut mourir. Quand la vie domestique pèse à un mari, il va au dehors guérir son cœur de son dégoût et se tourne vers un ami ou un camarade de son âge. Mais nous, il faut que nous n'ayons Dieu que pour un seul être. Ils disent de nous que nous vivons une vie sans danger à la maison, tandis qu'ils combattent avec la lance. Piètre raisonnement. Je préférerais lutter 3 fois sous un bouclier que d'accoucher une seule. Mais je me tais. Car le même langage ne vaut pas pour toi et pour moi. Toi, tu as ici une patrie, une demeure paternelle, les jouissances de la vie et la société d'amis. Moi, je suis seule, sans patrie, outragée par un homme qui m'a, comme un butin, arraché à une terre barbare, sans mère, sans frère, sans parents, près de qui trouver un mouillage à l'abri de l'infortune. Voici tout ce que je te demande. Si je trouve un moyen, une ruse, pour faire payer la rançon de mes maux à mon mari, à l'homme qui lui a donné sa fille et à celle qu'il a épousée, tais-toi. Une femme d'ordinaire est pleine de crainte, lâche au combat et à la vue du fer. Mais quand on attend au droit de sa couche, il n'y a pas d'âme plus altérée de sang.
C'est ici mon palais, César. Tous les appartements y sont donc à ma disposition. Je ne suis pas ta prisonnière. Disons plutôt que tu es mon hôte.
Bien aimable.
Tu affectes d'avoir de l'indulgence pour moi, n'est-ce pas? Serait-ce parce que tu es tellement plus âgée?
Autre portrait d'une reine mythique, extrait de la pièce Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare. Sarah Bernhardt au théâtre et Elizabeth Taylor au cinéma ont incarné la légendaire reine d'Égypte qui a su séduire les hommes les plus puissants de son époque, Jules César, Pompée, Marc-Antoine.
Nous sommes d'accord, toi et moi, sur ce que Rome désire vraiment, a toujours désiré de l'Égypte. L'or, le grain, nos trésors. La puissance romaine bâtie sur les richesses d'Égypte. Tu les auras toutes et dans la paix. Fais-moi reine.
Inspirée de l'œuvre de Plutarque, cette pièce tardive de Shakespeare évoque la fin tragique de ce couple mythique. Voici un extrait de l'acte 2, scène 3, où des conspirateurs à Rome évoquent le portrait de cette femme fatale à l'Empire.
Ce doit être une femme bien merveilleuse, si elle ne dément pas sa renommée.
Quand sur les eaux de Cydnus, elle vint à la rencontre d'Antoine, du premier coup, elle vous empocha son cœur.
Oui, c'est bien là qu'ils se sont rencontrés, à ce qu'on raconte.
Je puis vous le dire. La barque où elle était couchée resplendissait comme un trône, incendiait l'eau. La poupe était d'or martelé, de pourpre les voiles, et parfumée au point que les vents amoureux pâmaient sur elle. Les avirons étaient d'argent, qui battaient les flots en cadence au son des flûtes et faisaient s'empresser les eaux sous les délices de leurs coups. Quant à elle, son aspect met toute description en déroute. Sous un pavillon de drap d'or, elle reposait plus belle encore que cette image de Vénus où l'imagination fait honte à la réalité. À ses côtés, de mignons garçons potelés, pareils à de souriants cupidons, agitaient des éventails diaprés au souffle desquels paraissait s'aviver l'incarnat des délicates joues, rafraîchis comme s'ils eussent à la fois propagé l'ardent et le frais. Ses suivantes, comme autant de Néréides, et semblables aux fées des eaux, prenaient ordre dans ses regards, décorativement inclinés. À l'arrière, une sirène, eût-on dit, tenait la barre, dont on voyait les cordonnets de soie au toucher des fleurs de ses doigts se tendre dans un prompt office. De toute la barque s'exhale une invisible vapeur parfumée dont les quais adjacents s'enivrent, vibrant du peuple qui déversait la cité. Vers elle, tous accourent, désertant la place publique où trône Antoine. Autour de celui-ci, le vide. Il siffle, mais on dirait que l'air même lui manque, parti pour contempler lui aussi Cléopâtre et laissant dans la nature un trou. La barque accoste. Un messager d'Antoine invite Cléopâtre à souper. Elle refuse. Mieux vaut que ce soit lui qui vienne. Elle le convie instamment. Notre galant Antoine, à qui femme jamais n'entendit dire non, se fait coiffer, raser 10 fois, se rend à la fête et pour écho paie de son cœur ce que ses yeux ont dévoré.
La royale putain. Du grand César aussi, elle a su mettre au lit le glaive. Il a labouré et elle a porté la récolte. À présent, en effet, Antoine va devoir lui dire adieu pour toujours.
Antoine ne lui dira jamais adieu. Les années passeront sans la flétrir. Son extrême diversité met au défi la lassitude. Toute autre femme, en se prêtant au désir qu'on avait d'elle, l'exténue. Mais elle, plus elle assouvit, plus elle excite. Il n'est rien de vil, de honteux qui ne paraisse saillant en elle, à ce point que les saints prêtres la bénissent au milieu de ses débordements.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Amour maternel ou amour du pouvoir, voici un extrait de Britannicus de Racine. Lors de sa création, le 13 décembre 1669, Britannicus fait l'objet d'une cabale opposant les partisans de Racine à ceux de son grand rival, Corneille. Pour sa deuxième grande tragédie après Andromaque, Racine défie son contemporain en empruntant son sujet de prédilection, la Rome antique. Nous sommes en 55 après Jésus-Christ, avant la mort de son époux, Claude. Agrippine a intrigué pour faire accéder son propre fils, Néron, au trône. Mais celui-ci ne supporte plus la tutelle de sa mère. Pour contrarier ses projets de mariage entre son beau-fils Britannicus et Junie, Néron fait enlever la jeune fiancée. Humilié, Agrippine se sent menacée. Voici un extrait de l'acte 4, scène 2, où la mère affronte une dernière fois son fils.
Approchez-vous, Néron, et prenez votre place. On veut, sur vos soupçons, que je vous satisfasse. J'ignore de quel crime on a pu me noircir. De tout ce que j'ai fait, je vais vous éclaircir. Vous régnez. Vous savez combien votre naissance entre l'Empire et vous avait mis de distance. Quand de Britannicus la mère condamnée laissa de Claudius disputer l'Hyménée, parmi tant de beautés qui briguèrent son choix, qui de ses affranchis mendièrent les voies, je souhaitais son lit, dans la seule pensée de vous laisser au trône où je serais placé. Le Sénat fut séduit. Une loi moins sévère mit Claude dans mon lit et Rome à mes genoux. C'était beaucoup pour moi. Ce n'était rien pour vous. Je vous fis sur mes pas entrer dans sa famille, je vous nommai son gendre et vous donnai sa fille. Ce n'était rien encore. Eussiez-vous pu prétendre qu'un jour Claude à son fils dût préférer son gendre? De ce même palace, j'implorai le secours. Claude vous adopta, vaincu par ses discours, vous appela Néron, et du pouvoir suprême voulut, avant le temps, vous faire part lui-même. Cependant, Claudius penchait vers son déclin. Ses yeux, longtemps fermés, s'ouvrirent. À la fin, il connut son erreur. Occupé de sa crainte, il laissa pour son fils échapper quelques plaintes et voulut, mais trop tard, assembler ses amis, ses gardes, son palais, son lit m'étaient soumis. Mes soins, en apparence épargnant ses douleurs de son fils mourant, lui cachèrent les pleurs. On vit Claude, et le peuple étonné de son sort apprit en même temps votre règne et sa mort. C'est le sincère aveu que je voulais vous faire. Voilà tous mes forfaits. En voici le salaire. Du fruit de tant de soins à peine jouissant, en avez-vous 6 mois paru reconnaissant que, lassé d'un respect qui vous gênait peut-être, vous avez affecté de ne me plus connaître. Et lorsque vos mépris, excitant mes murmures, je vous ai demandé raison de tant d'injures, seul recours d'un ingrat qui se voit confondu, par de nouveaux affronts, vous m'avez répondu. Aujourd'hui, je promets j'unis à votre frère, ils se flattent tous deux du choix de votre mère. Que faites-vous? J'unis, enlevé à la cour, devient en une nuit l'objet de votre amour. Je vois de votre cœur Octavie effacée, prête à sortir du lit où je l'avais placée. Je vois Pallas banni, votre frère arrêté. Vous attentez enfin jusqu'à ma liberté. Burrus ose sur moi porter ses mains hardies. Et lorsque, convaincu de tant de perfidie, vous deviez ne me voir que pour les expier, c'est vous qui m'ordonnez de me justifier?
Je me souviens toujours que je vous dois l'Empire. Et sans vous fatiguer du soin de le redire, votre bonté, madame, avec tranquillité, pouvait se reposer sur ma fidélité. Aussi bien ces soupçons, ces plaintes assidues, ont fait croire à tous ceux qui les ont entendus que jadis, j'ose ici le dire entre nous, vous n'aviez sous mon nom travaillé que pour vous. Quel crime a donc commis ce fils tant condamné? Est-ce pour obéir qu'elle l'a couronné? N'est-il de son pouvoir que le dépositaire? Non, que si jusque-là j'avais pu vous complaire, je n'eusse pris plaisir, madame, à vous céder ce pouvoir que vos cris semblent redemander. Mais Rome veut un maître et non une maîtresse. Vous entendiez les bruits qu'excitait ma faiblesse? Tout autre se serait rendu à leur discours. Mais si vous régniez, vous vous plaignez toujours. Avec Britannicus contre moi réuni, vous le fortifiez de Junie. Et la main de Pallas trame tous ces complots. Et lorsque, malgré moi, j'assure mon repos, on vous voit de colère et de haine animée. Vous voulez présenter mon rival à l'armée. Déjà, jusque au camp, le bruit en a couru.
Moi, le fer empereur. Ingrat. L'avez-vous cru? Quel serait mon dessein? Qu'aurais-je pu prétendre? Quels honneurs dans sa cour? Quel rang pourrais-je attendre? Ah, si sous votre empire on ne m'épargne pas, si mes accusateurs observent tous mes pas, si de leur empereur ils poursuivent la mer, que ferais-je au milieu d'une cour étrangère? Vous ne me trompez point. Je vois tous vos détours. Vous êtes un ingrat. Vous le fûtes, toujours. Dès vos plus jeunes ans, mes soins et mes tendresses n'ont arraché de vous que de feintes caresses. Rien ne vous a pu vaincre. Et votre dureté aurait dû dans son cours arrêter ma bonté. Que je suis malheureuse. Et par quelle infortune faut-il que tous mes soins me rendent importune? Je n'ai qu'un fils, ô ciel, qui m'entends aujourd'hui. T'ai-je fait quelques vœux qui ne fussent pour lui ? Remords, crainte, péril, rien ne m'a retenu. J'ai vaincu ses mépris. J'ai détourné ma vue des malheurs qui dès lors me furent annoncés. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous régnez. C'est assez. Avec ma liberté que vous m'avez ravie, si vous le souhaitez, prenez encore ma vie. Pourvu que par ma mort, tout le peuple irrité ne vous ravisse pas ce qui m'a tant coûté.
Une autre figure de femme fatale à travers le personnage de la marquise de Merteuil. La liaison dangereuse. Coderlos de Laclos. Voici la lettre 81. C'est une lettre essentielle du livre. Pour la première fois, la marquise de Merteuil se dévoile et revendique sa liberté de femme en refusant son aliénation à toute puissance masculine. Il n'est pas vraiment question de féminisme ici. Pour dire sa liberté, la marquise de Merteuil a trouvé la parade. Il lui faut être l'égal de l'homme, quitte à employer les mêmes ruses que lui. Conquête, domination et surtout plaisir. Voici les trois mots d'ordre de cette déclaration de guerre adressée au vicomte de Valmont.
Que vos craintes me causent de pitié. Combien elles prouvent ma supériorité sur vous. Et vous voulez m'enseigner, me conduire ? Ah, mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi. Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Que puissiez-vous croire que j'ai besoin de votre prudence ? Que je m'égarerais en ne déférant pas à vos avis ? Que je dois leur sacrifier un plaisir, une fantaisie ? En vérité, vicomte, c'est aussi vous trop enorgueillir de la confiance que je veux bien avoir en vous. Et qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé mille fois ? Vous avez séduit, perdu même beaucoup de femmes. Mais quelles difficultés avez-vous eues à vaincre ? Quels obstacles à surmonter ? Où est le mérite qui soit véritablement à vous ? Une belle figure, pur effet du hasard. Des grâces que l'usage donne presque toujours. Une impudence assez louable, mais peut-être uniquement due à la facilité de vos premiers succès. Si je ne me trompe, voilà tous vos moyens. Quant à la prudence, à la finesse, je ne parle pas de moi. Mais quelle femme n'en aurait pas plus que vous ? Croyez-moi, vicomte, on acquiert rarement les qualités dont on peut se passer. Combattant sans risque, vous devez agir sans précaution. Pour vous autres hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre, et votre malheur est de ne pas gagner. Quand je vous accorderai autant de talent qu'à nous, de combien encore ne devrions-nous pas vous surpasser par la nécessité où nous sommes d'en faire un continuel usage ? Si cependant vous m'avez vu, disposant des événements et des opinions, faire des hommes si redoutables le jouet de mes caprices ou de mes fantaisies, ôter aux uns la volonté, aux autres la puissance de me nuire, si j'ai su tour à tour, et suivant mes goûts mobiles, attacher à ma suite ou rejeter loin de moi ces tyrans détrônés devenus mes esclaves, si au milieu de ces révolutions fréquentes, ma réputation s'est pourtant conservée pure, n'avez-vous pas dû en conclure que, né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi ? Ah, gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire et qui se disent à sentiment. Craignez encore pour celles qui, plus vaines que prudentes, ne savent pas au besoin consentir à se faire quitter. Tremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté que vous nommez sensibles et dont l'amour s'empare si facilement et avec tant de puissance. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes ? Je dis mes principes et je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions, je les ai créées, et je puis dire que je suis mon ouvrage. Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Forcé souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'étais bien jeune encore et presque sans intérêt. Mais je n'avais à moi que ma pensée. Et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté.
Et maintenant, le portrait d'une femme vengeresse avec un extrait du drame historique Marie Tudor de Victor Hugo. Victor Hugo et les femmes. S'il les a passionnément aimées, il a mis du temps à soutenir leur cause. En effet, ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il prend position. Il est douloureux de le dire, dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi a des euphémismes. Ce que j'appelle esclave, elle l'appelle mineur. Cette mineure, selon la loi, cette esclave, selon la réalité, c'est la femme. L'homme a fait verser tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. Dans notre législation telle qu'elle est, la femme ne possède pas. Elle n'est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. C'est là un état violent. Il faut qu'il cesse. L'une de ces nombreuses pièces de théâtre rend justement hommage à une femme, une grande reine d'Angleterre, celle qu'on surnommait Marie la Sanglante, Marie Tudor, la fille d'Henri VIII. Nous sommes à Londres en 1553. La reine s'est éprise de Fabiani, un Italien qu'elle a élevé au rang de lord. Quand elle apprend que celui-ci entretient une relation avec Jane Talbot, elle le condamne et lui promet de se venger. Voici la scène quatrième de la première partie de la troisième journée. Scène qui réunit la reine, Simon Renard, ministre ambassadeur d'Espagne, et Jane Talbot qui est cachée.
Ah, le changement vous étonne. Ah, je ne me ressemble plus à moi-même. Eh bien, qu'est-ce que cela me fait? C'est comme cela. Maintenant, je ne veux plus qu'il meure.
Votre Majesté avait pourtant arrêté hier que l'exécution aurait lieu aujourd'hui.
Comme j'avais arrêté avant-hier que l'exécution aurait lieu hier. Comme j'avais arrêté dimanche que l'exécution aurait lieu lundi. Aujourd'hui, j'arrête que l'exécution aura lieu demain.
En effet. Depuis le deuxième dimanche de l'Avent que l'arrêt de la chambre étoilée a été prononcé et que les deux condamnés sont revenus à la tour, précédés du bourreau, la hache tournée vers leur visage, il y a 3 semaines de cela, votre majesté remet chaque jour la chose au lendemain.
Eh bien, est-ce que vous ne comprenez pas ce que cela signifie, monsieur? Est-ce qu'il faut tout vous dire et qu'une femme mette son cœur à nu devant vous, parce qu'elle est reine, la malheureuse, et que vous représentez ici le prince d'Espagne, mon futur mari? Mon Dieu, monsieur, vous ne savez pas cela, vous autres. Chez une femme, le cœur a sa pudeur comme le corps. Eh bien oui, puisque vous voulez le savoir, puisque vous faites semblant de ne rien comprendre, oui, je remets tous les jours l'exécution de Fabiani au lendemain, parce que chaque matin, voyez-vous, la force me manque à l'idée que la cloche de la tour de Londres va sonner la mort de cet homme. Parce que je me sens défaillir à la pensée qu'on aiguise une hache pour cet homme. Parce que je me sens mourir de songer qu'on va clouer une bière pour cet homme, parce que je suis femme, parce que je suis faible, parce que je suis folle, parce que j'aime cet homme, pardieu. En avez-vous assez? Êtes-vous satisfait? Comprenez-vous? Oh, je trouverai moyen de me venger un jour sur vous, de tout ce que vous me faites dire, allez.
Il serait temps cependant d'en finir avec Fabiani. Vous allez épouser mon royal maître, le prince d'Espagne, madame.
Si le prince d'Espagne n'est pas content, qu'il le dise. Nous en épouserons un autre. Nous ne manquons pas de prétendants. Le fils du roi des Romains, le prince de Piémont, l'infant du Portugal, le cardinal Paulus, le roi de Danemark et Lord Courtenay sont aussi bons gentilshommes que lui.
Lord Courtenay?
Un baron anglais, monsieur, vaut un prince espagnol. D'ailleurs, Lord Courtenay descend des empereurs d'Orient. Et puis, fâchez-vous, si vous voulez.
Fabiani s'est fait haïr de tout ce qui a un cœur dans Londres.
Excepté de moi.
Les bourgeois sont d'accord sur son compte avec les seigneurs. S'il n'est pas mis à mort aujourd'hui même, comme l'a promis votre majesté...
Eh bien?
Il y aura émeute des manants.
J'ai mes lansquenets.
Il y aura complot des seigneurs.
J'ai le bourreau.
Votre majesté a juré sur le livre d'heures de sa mère qu'elle ne lui ferait pas grâce.
Voici un blanc-seing qu'il m'a fait remettre... et dans lequel je jure sur ma couronne impériale que je la lui ferai. La couronne de mon père vaut bien le livre d'heures de ma mère. Un serment détruit l'autre. D'ailleurs, qui vous dit que je lui ferai grâce?
Il vous a bien audacieusement trahi, madame.
Qu'est-ce que cela me fait? Tous les hommes en font autant. Je ne veux pas qu'il meure. Tenez, milord. Monsieur le bailli, veux-je dire. Mon Dieu, vous me troublez tellement l'esprit que je ne sais vraiment plus à qui je parle. Tenez, je sais tout ce que vous allez me dire, que cet homme est vil, un lâche, un misérable. Je le sais comme vous et j'en rougis. Mais je l'aime.
T'as laissé sans regret ton dernier jeu de billes et la cour de l'école et tes robes de petite fille. Avec une envie folle d'aller brûler tes ailes, t'as quitté à cloche-pied ta dernière marraine. T'as appris de l'amour ce qu'on en voit dans les rêves et ce qu'en disent les garçons quand ils gercent vos lèvres. T'as appris plus encore les hommes et leur silence et cette plaie qu'ils ouvrent avec indifférence. T'as bradé ton enfance, t'as mis ton cœur en solde, t'as joué au grand amour et tu le touches dans le désordre. T'as trop peur de te faire mal, elles sont lourdes à tourner, les pages d'un carnet de balle. Quand tu pars à la mer, tu penses voyage de noces. Quand t'arrives, y'a rien d'autre que le bonheur pour les gosses. Alors tu pleures un peu, tout au fond, sans une larme. Tu apprends à vieillir, comme vieillissent les femmes. En photo sur la table de nuit et ce corps familier allongé sur le lit. Il y a 30 ans de bout de ficelle abîmé par le temps pour maintenir au port un bateau qui fout le camp. T'as pas vu le temps passer, les enfants ont grandi, tu les vois moins souvent juste pour garder les petits. Tu vieillis sans haine comme a vieilli ta mère, vaincu par le miroir sans avoir fait la guerre. Vaincu par le miroir sans avoir fait la guerre.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Les cultivateurs sont à plaindre, vous savez.
Il n'y a pas que.
Ah, certes. Les ouvriers des villes, par exemple.
Mais les femmes...
Non, ça c'est bien vrai.
Madame Bovary...
J'ai connu des mères de famille.
De Claude Chabrol.
De pauvres femmes vertueuses, je vous assure. De véritables saintes. Qui manquaient même de pain.
Mais toutes celles, monsieur le curé... Toutes celles qui ont du pain et qui n'ont pas...
Qui n'ont pas de feu l'hiver.
Oh, qu'importe.
Mais comment qu'importe? Mais il me semble que lorsqu'on est bien chauffé, bien nourri, les choses... Ça va pas? Oh, c'est un problème de digestion. Mais faut rentrer chez vous, madame Bovary, et prendre une bonne tasse de thé.
Mais non, mais non.
J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait. Mais vous me demandiez quelque chose. Qu'est-ce donc? Je sais plus.
Romantique déçue, épouse esselée, la femme décrite par Flaubert est celle qui ne peut s'accommoder d'une existence qui brime l'idéal. Voici un extrait donc de Madame Bovary. 5 années de travail ont été nécessaires à l'auteur pour venir à bout de ce portrait de femme, certainement l'un des romans les plus lus au monde aujourd'hui. Emma Rouault, tout juste sortie du couvent, épouse Charles Bovary, un médecin de campagne. Mais ses rêves romantiques, nourris par de nombreuses lectures, sont rapidement mis à mal par la réalité de la vie de couple. Emma Bovary s'ennuie et sombre dans la dépression. Voici un extrait du chapitre 9 de la première partie. Pour se tenir au courant, Charles Bovary prit un abonnement à la Ruche médicale, journal nouveau dont il avait reçu le prospectus. Il en lisait un peu après son dîner, mais la chaleur de l'appartement, jointe à la digestion, faisait qu'au bout de 5 minutes, il s'endormait. Et il restait là, le menton sur ses deux mains, et les cheveux étalés comme une crinière jusqu'au pied de la lampe. Que n'avait-elle au moins pour mari un de ces hommes d'ardeur taciturne qui travaillaient la nuit dans des livres et portent enfin à 60 ans une brochette en croix sur l'arabie noire mal fait? Emma aurait voulu que ce nom de Bovary, qui était le sien, fût illustre. Le voir étalé chez des libraires, répété dans des journaux, connu par toute la France. Mais Charles n'avait point d'ambition. Un médecin d'Yvetot, avec qui dernièrement il s'était trouvé en consultation, l'avait humilié quelque peu, au lit même du malade, devant les parents assemblés. Quand Charles lui raconta le soir cette anecdote, Emma s'emporta bien haut contre le confrère. Charles en fut attendri. Il la baisa au front avec une larme. Mais elle était exaspérée de honte. Elle avait envie de le battre. Elle alla dans le corridor ouvrir la fenêtre et huma l'air frais pour se calmer. « Quel pauvre homme, quel pauvre homme !» disait-elle tout bas en se mordant les lèvres. Quelquefois, elle lui parlait des choses qu'elle avait lues, comme d'un passage d'un roman, d'une pièce nouvelle ou de l'anecdote du grand monde que l'on racontait dans le feuilleton. Car enfin, Charles était une oreille toujours ouverte, une approbation toujours prête. Elle faisait bien des confidences à sa levrette. Elle en eût fait aux bûches de cheminée et au balancier de la pendule. Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Comme les matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés, cherchant au loin quelques voiles blanches dans les brumes de l'horizon. Elle ne savait pas quel serait ce hasard, le vent qui le pousserait jusqu'à elle, vers quel rivage il l'amènerait, s'il était chaloupe ou vaisseau à trois ponts, chargé d'angoisse ou plein de félicité jusqu'au sabord. Mais chaque matin, à son réveil, elle l'espérait pour la journée. Et elle écoutait tous les bruits, se levait en sursaut, s'étonnait qu'il ne vînt pas. Puis au coucher du soleil, toujours plus triste, désirait être au lendemain. Dès le commencement de juillet, elle compta sur ses doigts combien de semaines lui restaient pour arriver au mois d'octobre, pensant que le marquis d'Andervilliers, peut-être, donnerait encore un bal à la Vaubyessard. Mais tout septembre s'écoula sans lettre ni visite. Après l'ennui de cette déception, son cœur de nouveau resta vide, et alors la série des mêmes journées recommença. Elles allaient donc maintenant se suivre ainsi à la file, toujours pareilles, innombrables et n'apportant rien. Les autres existences, si plates qu'elles fussent, avaient du moins la chance d'un événement. Une aventure amenait parfois des péripéties à l'infini et le décor changeait. Mais pour elle, rien n'arrivait. Dieu l'avait voulu. L'avenir était un corridor tout noir et qui avait sa porte bien fermée. Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer? Qui l'entendrait? Puisqu'elle ne pourrait jamais, en robe de velours, à manches courtes, sur un piano des rares, dans un concert, battant de ses doigts légers les touches d'ivoire, sentir, comme une brise, circuler autour d'elle un murmure d'extase, ce n'était pas la peine de s'ennuyer à étudier. Elle laissa dans l'armoire ses cartons à dessin et la tapisserie. À quoi bon? Mais c'était surtout aux heures des repas qu'elle n'en pouvait plus. Dans cette petite salle au rez-de-chaussée avec le poêle qui fumait, la porte qui criait, les murs qui suintaient, les pavés humides, toute l'amertume de l'existence lui semblait servie sur son assiette et à la fumée du bouilli, il montait du fond de son âme comme d'autres bouffées d'affadissement. Charles était long à manger. Elle grignotait quelques noisettes ou bien, appuyée du coude, s'amusait avec la pointe de son couteau à faire des raies sur la toile cirée. Est-ce que cette misère durerait toujours? Est-ce qu'elle n'en sortirait pas? Elle valait bien, cependant, toutes celles qui vivaient heureuses. Elle avait vu des duchesses à la Vaubyessard qui avaient la taille plus lourde et les façons plus communes, et elle exécrait l'injustice de Dieu. Elle s'appuyait la tête au mur pour pleurer. Elle enviait les existences tumultueuses, les nuits masquées, les insolents plaisirs avec tous les éperdements qu'elle ne connaissait pas et qu'il devait donner. Un jour, elle faisait des rangements dans un tiroir, elle se piqua les doigts à quelque chose. C'était un fil de fer de son bouquet de mariage. Les boutons d'oranger étaient jaunes de poussière et les rubans de satin à liseré d'argent s'effiloquaient par le bord. Elle le jeta dans le feu. Il s'enflamma plus vite qu'une paille sèche. Puis ce fut comme un buisson rouge sur les cendres et qui se rongeait lentement. Elle le regarda brûler. Les petites baies de carton éclataient, les fils d'archal se tordaient, le galon se fondait. Et les corolles de papier racornies se balançant le long de la plaque comme des papillons noirs, enfin s'envolèrent par la cheminée.
Isabelle Huppert.
J'ai découvert dans Madame Bovary un personnage beaucoup plus vivant, beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant que le souvenir qu'on peut en avoir. Il y a bien sûr tous les sentiments qui ont construit ce mythe, c'est-à-dire l'insatisfaction, la mélancolie, la langueur, mais il y a aussi tous les corollaires de ces sentiments qui sont le désir, la passion, la volonté de s'en sortir, le fait qu'elle se bat contre une société de cette époque extraordinairement misogyne, qui la maltraite par sa lâcheté, par son manque de goût. J'ai pensé qu'il y avait peut-être mieux à faire finalement que le souvenir qu'on en avait.
La femme fantasmée à travers le regard d'un enfant dans « Du côté de chez Swann » de Marcel Proust. Le premier volet de la recherche est consacré à l'enfance du narrateur passé à Combray. Il y fait la connaissance de Swann, mais surtout des Guermantes, et notamment de la Duchesse, qu'il voit pour la première fois lors d'un mariage à l'église. Pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le Suisse en se déplaçant me permit de voir, assise dans une chapelle, une dame blonde avec un grand nez, des yeux bleus et perçants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et un petit bouton au coin du nez. Et parce que dans la surface de son visage rouge, comme si elle eût très chaud, je distinguais, dilué et à peine perceptible, des parcelles d'analogie avec le portrait qu'on m'avait montré, parce que surtout les traits particuliers que je relevais en elle, si j'essayais de les énoncer, se formulaient précisément dans les mêmes termes, un grand nez, des yeux bleus dont s'était servi le docteur Perspi quand il avait décrit devant moi la duchesse de Guermantes, je me dis « cette dame ressemble à Madame de Guermantes ». Or, la chapelle où elle suivait la messe était celle de Gilbert le Mauvais, sous les plates-tombes de laquelle reposaient les anciens comtes de Brabant, et que je me rappelais être, à ce qu'on m'avait dit, réservé à la famille de Guermantes quand quelqu'un de ses membres venait pour une cérémonie à Combray. Il ne pouvait vraisemblablement y avoir qu'une seule femme ressemblant au portrait de Madame de Guermantes qui fut ce jour-là, jour où elle devait justement venir dans cette chapelle. C'était elle. Ma déception était grande. Elle provenait de ce que je n'avais jamais pris garde quand je pensais à Madame de Guermantes, que je me la représentais avec les couleurs d'une tapisserie ou d'un vitrail dans un autre siècle, d'une autre matière que le reste des personnes vivantes. « C'est cela, ce n'est que cela, Madame de Guermantes, » disait la mine attentive et étonnée avec laquelle je contemplais cette image qui naturellement n'avait aucun rapport avec celle qui, sous le même nom de Madame de Guermantes, était apparue tant de fois dans mes songes. Mais en même temps, sur cette image que le nez proéminent, les yeux perçants épinglés dans ma vision, sur cette image toute récente, inchangeable, j'essayais d'appliquer l'idée « c'est Madame de Guermantes » sans parvenir qu'à la faire manœuvrer en face de l'image comme deux disques séparés par un intervalle. Mais cette Madame de Guermantes à laquelle j'avais si souvent rêvé, maintenant que je voyais qu'elle existait effectivement en dehors de moi, en prit plus de puissance encore sur mon imagination, qui, à un moment paralysée au contact d'une réalité si différente de ce qu'elle attendait, se mit à réagir et à me dire « Glorieux dès avant Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur leurs vassaux. La duchesse de Guermantes descend de Geneviève de Brabant. Elle ne connaît ni ne consentirait à connaître aucune des personnes qui sont ici. » Et, ô merveilleuse indépendance des regards humains, retenus au visage par une corde si lâche, si longue, si extensible qu'ils peuvent se promener seuls loin de lui, pendant que Madame de Guermantes était assise dans la chapelle au-dessus des tombes de ses morts, ses regards flânaient, çà et là, montaient le long de piliers, s'arrêtaient même sur moi, comme un rayon de soleil errant dans la nef. Mais un rayon de soleil qui, au moment où je reçus sa caresse, me sembla conscient. Quant à Madame de Guermantes elle-même, comme elle restait immobile, il me fut impossible de savoir si elle approuvait ou blâmait dans le désœuvrement de son âme le vagabondage de ses regards. Je trouvais important qu'elle ne partît pas avant que j'eusse pu la regarder suffisamment, car je me rappelais depuis des années que je considérais sa vue comme éminemment désirable, et je ne détachais pas mes yeux d'elle, comme si chacun de mes regards eût pu matériellement emporter et mettre en réserve en moi le souvenir du nez proéminent, des joues rouges, de toutes ces particularités qui me semblaient autant de renseignements précieux, authentiques et singuliers sur son visage. Maintenant que me le faisait trouver beau toutes les pensées que j'y rapportais, la replaçant hors du reste de l'humanité dans laquelle la vue pure et simple de son corps me l'avait fait un instant confondre, je m'irritais en entendant dire autour de moi « Elle est mieux que Madame Sazera, que Mademoiselle Vinteuil », comme si elle leur eût été comparable. Et mes regards s'arrêtant à ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à la tache de son cou, et en mettant les traits qui eussent pu me rappeler d'autres visages, je m'écriais devant ce croquis volontairement incomplet « Qu'elle est belle ! Quelle noblesse! Comme c'est bien une fière Guermantes, la descendante de Geneviève de Brabant que j'ai devant moi. » Je la revois surtout au moment du défilé dans la sacristie qu'éclairait le soleil intermittent et chaud d'un jour de vent et d'orage, et dans laquelle Madame de Guermantes se trouvait au milieu de tous ces gens de Combray, dont elle ne savait même pas les noms, mais dont l'infériorité proclamait trop sa suprématie pour qu'elle ne ressentît pas pour eux une sincère bienveillance. Et auprès du reste, elle espérait imposer davantage encore à force de bonne grâce et de simplicité. Je revois encore le doux étonnement de ses yeux auxquels elle avait ajouté, sans oser le destiner à personne, mais pour que tous puissent en prendre leur part, un sourire un peu timide de suzeraine qui a l'air de s'excuser auprès de ses vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi, qui ne la quittait pas des yeux. Alors, me rappelant ce regard qu'elle avait laissé s'arrêter sur moi pendant la messe, bleu comme un rayon de soleil qui aurait traversé le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis « Mais sans doute elle fait attention à moi. » Je crus que je lui plaisais, qu'elle penserait encore à moi quand elle aurait quitté l'église, qu'à cause de moi, elle serait peut-être triste le soir à Guermantes. Et aussitôt je l'aimais. Car s'il peut quelquefois suffire pour que nous aimions une femme qu'elle nous regarde avec mépris, comme j'avais cru qu'avait fait Mademoiselle Swann, et que nous pensions qu'elle ne pourra jamais nous appartenir, quelquefois aussi, il peut suffire qu'elle nous regarde avec bonté, comme faisait Madame de Guermantes, et que nous pensions qu'elle pourra nous appartenir. Ses yeux bleuissaient comme une pervenche impossible à cueillir, et que pourtant elle m'eût dédiée. Et le soleil menacé par un nuage, mais dardant encore de toute sa force sur la place et dans la sacristie, donnait une carnation de géranium au tapis rouge qu'on y avait étendu par terre pour la solennité sur lesquelles s'avançait, en souriant, Madame de Guermantes, et ajoutait à leur lainage un velouté rose, un épiderme de lumière, cette sorte de tendresse, de sérieuse douceur dans la pompe et dans la joie qui caractérisent certaines pages de Lohengrin, certaines peintures de Carpaccio, et qui font comprendre que Baudelaire ait pu appliquer au son de la trompette l'épithète de délicieux. Cette émission, en partenariat avec le magazine littéraire, a été réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Philippe Thibault. Elle a été préparée par Estelle Gap et Laura El Maki.